Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Quelle est la place du XXe siècle dans la mémoire des nouvelles générations? De quelle mémoire du XXe siècle sera fait le XXIe siècle? Ce sont armés de ces questions que la Fondation pour l'innovation politique, en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, a conduit une vaste enquête auprès de plus de 31 000 jeunes âgés de 16 à 29 ans et issus de 31 pays, à savoir 19 pays membres de l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, le Canada, Israël, le Japon, la Turquie, la Russie et l'Ukraine et l'Inde. Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour.
Vous êtes directeur général donc de la Fondation Fondapol, abrégé, et vous allez nous présenter les résultats de cette enquête inédite qui a été réalisée entre le 14 juillet et le 11 août 2014. Donc c'est assez récent. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le point de départ de cette enquête? Est-ce que, par exemple, c'est une inquiétude suite aux nombreux signalements sur la difficulté, par exemple, d'enseigner la Shoah ou plus généralement sur ce que les enseignants appellent les questions sensibles qui relèvent d'un passé toujours présent?
Oui, ça y participe assurément hein, dans la détermination de mener cette enquête. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une enquête que deux fondations ont réalisée en partenariat, la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation dont j'ai la charge, parce que c'est une enquête qui est très lourde. Et donc, on ne peut pas la décider comme ça. Ce n'est pas un sondage ordinaire. C'est en 24 langues différentes. Donc, c'est toute une opération. Hein. Et c'est vraiment un coup qu'il ne faut pas rater non plus, parce qu'il y a beaucoup de pièges, je dirais, méthodologiques. Bref, nous l'avons fait. Mais nous l'avons fait notamment pour cette raison-là, parce que on a le sentiment que quelque chose est en train de devenir beaucoup plus compliqué dans l'enseignement de l'histoire, la transmission, pour la raison que vous avez indiquée, en tout cas sous des formes qui se manifestent comme celles que vous avez indiquées, une opposition, une résistance, un scepticisme dans la nécessité d'enseigner la Shoah ou dans l'enseignement de la Shoah, que ce soit du côté de certains élèves ou du côté de certains enseignants. Mais en même temps aussi, il y a une autre raison qui est la possibilité que ce puissant phénomène qu'est la globalisation soit en train de transformer assez fondamentalement les jeux de mémoire, les mécanismes de la mémoire, et ça part aussi dans une recomposition de la mémoire, y compris européenne.
Et c'est aussi suite à de nombreuses commémorations aussi, j'imagine.
Alors, voilà, il y a cette idée.
Que ce soit en 2014 ou cette année, comme on l'a vu avec la commémoration de la libération d'Auschwitz,
absolument.
La création du régime Khmer Rouge, enfin les 40 ans de création du régime Khmer Rouge.
Le centenaire du génocide arménien.
Le centenaire du génocide arménien.
Le 24 avril prochain. L'année dernière, on fêtait aussi, enfin on célébrait en tout cas l'anniversaire du génocide rwandais. Donc c'est un moment, si vous voulez, de 2014-2015, c'est beaucoup de commémorations. On a parfois un regard critique sur les commémorations. Elles sont fondamentales, celles qui ont lieu depuis un an et qui auront lieu pendant deux ans. Elles sont fondamentales. Et c'était en amont de cela que l'idée était de prendre appui aussi sur ces commémorations pour apporter un peu le point de vue du sujet, en quelque sorte, auquel nous destinons les commémorations. Parce que ce soit l'enseignement, les commémorations, les rappels du passé, eh bien, c'est destiné à être entendu, à être discuté, partagé, transmis. Et donc, l'idée était de faire surgir dans ces moments qui sont parfois très solennels, où on a l'impression parfois qu'il y a une forme de distance entre ceux qui organisent la commémoration ou qui la portent, et puis ceux auxquels nous la destinons, on voulait faire apparaître hein, le sujet qui est le collectif, enfin nous tous, à travers cette enquête qui se spécifie et se spécialise sur les nouvelles générations, les 16-29 ans, avec cette idée que, au fond, ce sont les premières générations qui n'ont vraiment été socialisés qu'au Nouveau Monde, qui n'ont pas, comme moi par exemple, qui ai 54 ans, j'ai connu l'Ancien Monde très largement, j'ai même commencé à enseigner dans l'Ancien Monde, c'est-à-dire avant la globalisation, et je transforme ma manière d'enseigner, ma compréhension, je m'adapte à un monde qui est nouveau, que chacun ressent comme étant très nouveau, mais là nous avons les générations qui n'ont connu presque que celui-là, et même parmi ces 16-29 ans, il y a des générations qui n'ont connu que celui-là. Il y a d'ailleurs dans l'humanité aujourd'hui 2 milliards d'humains qui sont nés après 95. Et donc on a, chaque année qui passe, de plus en plus d'humains qui n'ont pas du tout connu le monde d'avant. Et évidemment, ça a des effets très puissants.
Et dont le lien subjectif aussi avec cette histoire est plus tenu, parce que, enfin, sauf s'ils ont un arrière-grand-père vivant ou un grand-père qui peut leur raconter, ça reste du domaine de l'histoire, en quelque
Absolument.
Sorte.
Absolument. La transmission familiale s'affaiblit, s'éteint. Il y a d'autres supports, bien sûr, pour cette mémoire, à la partager et la faire vivre, mais certains s'épuisent, comme c'est le cycle, je dirais, un peu de la vie, là. Donc, la question aussi est de savoir ce qui peut se passer lorsque ces nouvelles générations qui vont faire le XXIe siècle vont y entrer avec une mémoire qui est à nos yeux essentielle, la mémoire du XXe siècle, en particulier des drames les plus épouvantables qui l'ont caractérisé, et qui, avec cette mémoire-là, vont faire un XXIe siècle qui nécessairement sera pour partie une conséquence de cette mémoire.
Alors justement, quels sont, je ne sais pas, les deux ou trois principaux enseignements de cette enquête? D'abord, est-ce qu'ils savent? Alors, est-ce qu'ils ont des connaissances suffisantes?
Il y a beaucoup de choses. Alors, on n'a pas posé de questions de connaissances, mais des questions pourtant invitant les jeunes gens à une évaluation politique, morale de l'événement. Vous voyez, on les a invités plutôt à nous dire qu'est-ce que c'est comme événement. Et par exemple, le massacre des Juifs par les nazis, est-ce que c'est ce qu'on appelle un génocide, oui ou non? On a proposé comme ça une série de questions. Donc, c'est une qualification. On les invite plutôt.
Il y a aussi des questions de connaissance, par exemple sur le pacte germano-soviétique.
Alors, c'est la seule, je crois.
D'accord.
Je crois que c'est la seule. Non, mais vous avez raison, c'est très bien.
J'ai pris ça là en exact, parce que là, pour le coup, ils ne savent pas.
Absolument, c'est très bien. Vous avez raison, c'est la seule. C'est très bien que vous ayez vu ça. Et en fait, j'ai pensé que c'était possible de la poser parce que c'est la seule qui ne se vérifie pas aisément. Puisqu'il est très facile aujourd'hui, évidemment, de vérifier tout un tas de choses sur le web. Donc celle-là est plus compliquée à savoir si en 1940, l'Allemagne nazie et l'URSS soviétique étaient alliés. C'est plus difficile de répondre sans avoir un peu de connaissance à cette question. Mais globalement, ce qui ressort, il y a deux choses. Il y a un aspect, enfin dans la grande conclusion, je dirais, il y a un aspect qui est très rassurant, il faut bien le dire. En tout cas, moi, qui m'a beaucoup rassuré et même que j'ai trouvé contre-intuitif. Qui est que le niveau de connaissance, de compréhension des grands drames du XXe siècle, la Shoah en particulier, est très satisfaisant, on peut le dire. C'est-à-dire qu'on atteint des niveaux très très élevés. 80-90% des jeunes interrogés, en particulier dans l'espace européen, sont tout à fait au courant, savent ce qui s'est passé, savent le qualifier, en savent l'importance, etc. Et donc ça, c'est une espèce d'image globale. On voit qu'il y a une mémoire plus vive parmi les Européens. Et quand on regarde les Européens dans le détail, il y a deux pays où la jeunesse se caractérise par une mémoire plus vive encore, c'est la France et l'Allemagne. Et il se trouve que la jeunesse française est sur ces plans-là la plus sensible, la plus au fait encore de toutes les jeunesses que nous avons interrogées en Europe. Et donc il y a quelque chose qui est satisfaisant de ce point de vue-là. C'est le premier aspect. L'autre aspect, il est plus... il donne à penser, disons. Je ne sais pas si je peux le qualifier négativement, mais il donne à penser. L'autre aspect, il est qu'on voit d'autres mémoires qui se configurent autrement, qui ne sont pas toutes d'ailleurs si loin de nous que ça. Par exemple, la mémoire de la jeunesse américaine est très éloignée de la mémoire européenne. Et sur bien des aspects essentiels, elle se perd, elle se délite. Elle a perdu le sens de ce qui s'est passé. C'est très impressionnant. Songez que même le débarquement en Normandie n'est pas considéré par les jeunes Américains comme un événement important. Ils accordent beaucoup plus d'importance à Pearl Harbor, peut-être que voilà, ça paraît être logique, mais je trouve ça très surprenant comme résultat. Et la sensibilité ou la connaissance de la jeunesse américaine à l'égard de ce qui a fait le nazisme, de ce qu'est la Shoah, de ce qu'est un génocide, est très très en dessous des jeunesses européennes, mais de façon spectaculaire. Donc là, ce sont des choses qui me paraissent, moi...
Ce qui interroge sur le rôle de l'école, justement.
Le rôle de l'école, des formes culturelles nouvelles, des sociétés nouvelles. On les voit bien, les sociétés nouvelles apparaître nous-mêmes. On voit bien qu'on se transforme, mais on ne sait pas très bien les effets sur la mémoire. Et alors, quand on regarde les pays émergents, puisqu'il y a l'Inde et la Chine dans le panel, là, on voit une mémoire assez différente quand même, hein, qui à la fois se distingue par l'évaluation qu'elle a des grandes questions du XXe siècle, par exemple voilà, sur le communisme, sur le nazisme, c'est pas tout à fait les mêmes évaluations que les Européens, loin s'en faut, mais qui se distingue aussi par les modes d'apprentissage, où l'école qui triomphe en Europe est très secondaire dans ces pays-là, en tout cas dans les déclarations, qui préfèrent, ou en tout cas qui donnent à parité Internet. Et là, évidemment, on songe à toute la puissance du web et on se dit, honnêtement, moi je n'y avais pas songé particulièrement avant, mais on se dit que, effectivement, là aussi le web va produire des changements très, très importants, très profonds. Il n'y a pas que dans tous les autres domaines où l'on voit de grandes percussions, hein, de grands chocs, de grandes mutations, dans la mémoire aussi, dans la mesure où les jeunes gens nous disent, ce qui n'est pas nécessairement surprenant, mais enfin aura des conséquences, qu'une des sources pour eux de connaissances, d'appréhension de l'histoire, de compréhension et de partage et de transmission, c'est le web. Les Français sont ceux qui répondent le moins, d'ailleurs, le web et qui choisissent beaucoup plus, enfin massivement l'école. En France, c'est le triomphe de l'école, si vous voulez. L'Europe aussi, d'ailleurs, d'une manière générale. Hein.
Et puisqu'en France, là, on est à 87% qui disent être informés par l'école. Internet est à 12%, donc c'est assez faible.
C'est
si faible, on voit, par exemple...
Si vous regardez l'Inde, par exemple...
Oui, voilà. Alors l'Inde, justement, 75% l'école, 53%...
La cohabitation avec Internet est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus massive. Et donc, ce que l'école ne vous donne pas, le web peut vous le donner dans les conditions qui sont les meilleures ou les pires. Ou ce que l'école vous donne, le web peut le défaire dans les conditions qui dépendent de ce que le web offre et de ce qui est mis à disposition des internautes par tous les producteurs de contenu.
Par rapport quand même à cette question de la connaissance, y a un chiffre qui m'a frappé, c'est qu'à peine un jeune sur deux, alors là globalement, c'est 47%, hein, a le sentiment d'avoir des connaissances plutôt ou très approfondies sur l'extermination des Juifs sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Non. Donc, à contrario, ça veut dire que la moitié des jeunes avouent avoir des connaissances superficielles. Alors là, on peut se dire, est-ce que le faible niveau de connaissance, justement, n'est pas favorable à l'adhésion à des thèses révisionnistes, voire négationnistes, comme celles qui circulent sur Internet. Parce que, bon, vous semblez assez optimiste, finalement. Enfin, vous avez fait votre présentation à la Fondapol, vous étiez finalement assez optimiste en disant « ils savent ce qu'ils ont à savoir », mais un résultat comme ça, ça porte quand même un peu au pessimisme.
Alors, moi, c'est peut-être pas cet aspect-là qui me rendrait inquiet, pas pessimiste, mais inquiet. Parce que au fond... Dire « je considère que je n'ai pas de connaissances approfondies sur la Shoah », c'est peut-être aussi une vérité encourageante, au sens où il y a beaucoup à savoir. Et au fond, on ne sait pas vraiment. Vous voyez, il y a quand même une forme de... Ça me paraît, c'est peut-être la mesure de la complexité, de l'intensité, de la gravité. Ce n'est pas nécessairement une marque de lucidité. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé que dans cette réponse, il y avait quelque chose de négatif.
C'est aussi parce que vous avez posé des questions fermées, plutôt. C'est-à-dire, si, par exemple, à la question ouverte, qui serait de dire quelle est la différence entre un camp de concentration et d'extermination, ou est-ce qu'Auschwitz, c'est un...
C'est marrant parce que cette question.
Qu'est-ce qu'Auschwitz je ne sais pas s'il répondrait forcément.
Cette question,
bien.
On l'a posée puis on l'a retirée.
Ah oui.
On l'a trouvée. On a formalisé la question avec des réponses en option. Puis on l'a retirée parce qu'au fond, elle faisait surgir toute une série de difficultés. C'était très compliqué. On a eu peur qu'au fond, les répondants s'y perdent. Non, mais vous savez, c'est des questions posées à la généralité des 16-29 ans, hein, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur succès à l'école. On interroge la structure des échantillons, elle est faite par pays, c'est 1000 personnes qui sont représentatives de la jeunesse de ce pays. Et donc, on a vraiment... Il faut bien voir, quand vous faites une enquête comme ça, vous avez, la plupart des gens sont assez ignorants, quand même, par définition, hein, où le savoir est limité à ce que l'on peut enseigner à l'école. Non, à ce que l'on peut assimiler de ce qui a été enseigné à l'école. Hein. Donc, c'est quand même... Alors, moi, ce qui me rend plutôt inquiet, je dirais, c'est ce phénomène d'intrusion, et qui ne fait que commencer, d'Internet, où là, nous sommes tous démunis. Hein. Parce que l'école, on le sait, sur d'autres sujets aussi, on le sait, l'école... fait un travail énorme, et ça peut-être qu'on ne le dit pas assez, on y arrive, il y a aussi des fondations qui s'y attellent, c'est la raison pour laquelle moi j'étais très attaché à ce partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On travaille pour que le savoir soit partagé, qu'il soit vivant. Mais à côté, vous avez des processus qui sont, voilà, qui sont les transformations de notre société. Mmh. Les familles, par exemple, ce n'est pas simplement qu'elles, que ce ne sont plus les mêmes et que la mémoire familiale peut se perdre. C'est aussi que les familles sont déstructurées. C'est aussi que la famille n'est plus aussi souvent qu'avant un lieu de partage de la mémoire.
C'est-à-dire que les canaux de transmission, aujourd'hui, sont multiples, voilà. Éclatés.
Et les canaux... je dirais, institué, oui. Depuis la fin du XIXe siècle, je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus, à peu près ça, je dirais, la famille ou l'école ne sont pas aussi structurés, ils se déstructurent, ils ont d'autres choses à faire,
et puis
ils sont perdus.
Ils font plus autant référence, c'est un discours parmi d'autres.
Et même contestés, parfois, comme vous le savez, ce thème de la contestation de l'autorité établie, alors le prof, c'est un expert, mais pourquoi toi et pas les autres, etc. Donc, ce qui, moi, me frappe, c'est, je me demande si ce n'est pas une photographie de l'opinion, de ces nouvelles générations, au moment où tout est encore comme avant.
C'est ça, oui. Et que c'est en train de basculer.
Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que si dans 10 ans, on fait la même photographie, on va avoir un résultat très différent et qu'il faudra donc le prendre en considération dès maintenant. Il faut redoubler d'efforts, il faut se mobiliser beaucoup. La mauvaise conclusion serait de dire « ça va bien, ne changeons pas ». Vous voyez, ça, c'est la mauvaise conclusion. Il faut plutôt dire « jusqu'ici, on s'en est bien sorti ». Mais ça change profondément, donc il faut nous mobiliser beaucoup, inventer de nouveaux supports, produire beaucoup pour le web, ça me paraît essentiel, pour ne pas se faire doubler ou submerger par de la fausse science ou du faux savoir ou du savoir militant, manipulé, etc.
Alors d'ailleurs, il y a une partie intéressante, c'est sur les outils de la mémoire, je crois que vous avez appelé ça comme ça. Enfin, les modes de transmission, les moyens de transmission. Donc l'école vient en numéro un, mais ensuite, les films ont une place importante, oui. Les lieux de mémoire aussi.
Absolument.
Par contre, les commémorations régressent. On sent que ça... Enfin, sauf en Israël, évidemment, ça dépend des pays, mais l'importance des commémorations comme... on va dire, mode de transmission des connaissances.
Encore qu'il y a trois jeunesses qui sont intéressantes à rapprocher. C'est la jeunesse française, allemande et israélienne qui, sur tout ce qui est commémoration, etc., se retrouvent. Même sur les lieux, l'importance des lieux. C'est tout à fait saisissant de voir ces trois jeunesses, comment elles se retrouvent. Mais vous avez raison. Documentaire aussi, très
films,
important. Il y a les deux, en fait. Il y a les deux. Documentaire, fiction. Ce sont deux, on les a distingués, et les deux trouvent leur public et sont des modalités. Et en particulier, quand on, dans le détail, c'est pas très facile de l'illustrer en radio, mais c'est l'idée. Dans le détail, entre 16 et 29 ans, vous avez des jeunes qui sont scolarisés et puis des jeunes qui sont dans la vie active, etc. Il y en a même qui ont des enfants dans nos échantillons. Hein, donc on est dans autre chose déjà. Eh bien, ceux qui sont sortis de l'école il y a longtemps, si je puis dire, dans cette classe d'âge-là, s'appuient davantage sur les fictions et les documentaires pour faire vivre leur savoir. Donc on voit bien comment documentaires et fictions ne sont pas simplement des appuis, pas dans l'école, pédagogique, mais sont aussi ensuite, une fois que l'école, au fond, voit son influence décroître, parce qu'on oublie un peu ses études, eh bien, sont
des relais importants.
Sont des relais essentiels, vous voyez. Donc ça, c'est un aspect qui me paraît, moi... Et puis, une chose qui m'a paru aussi très importante, on a demandé, est-ce qu'il faut conserver les vestiges des camps de concentration pour que le public puisse s'y rendre? La réponse est massivement oui. De mémoire, c'est 83%. Massivement, oui. Et quand on pose la question à ceux qui ont répondu oui, c'est-à-dire 83%, pourquoi ? La réponse la plus importante, c'est pour éviter que ça se reproduise. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a paru très intéressant et très fort dans cette double réponse, c'est la compréhension, une des compréhensions en tout cas, pleine et entière, de la nécessité de visiter, de se souvenir, éviter que ça se reproduise. Donc on a bien là, ici, c'est pas un effet, je dirais, de discipline scolaire, simplement, il y a cette espèce de lien avec la politique de main, au fond. Et c'est ça aussi, je dirais que dans cette question-là, éviter que ça se reproduise, dans cette réponse-là, moi j'ai trouvé presque la justification de l'ensemble de l'enquête. C'est-à-dire, ces jeunesses-là vont entrer dans le 21e siècle, vont faire le 21e siècle avec ce rapport au passé et leçon, ce drame à méditer. Et là, on verra si l'histoire est agissante ou si elle est simplement inerte.
Oui, à condition qu'ils aient vraiment intériorisé cette nécessité-là, que ça ne se reproduise pas, que ce ne soit pas une réponse un peu complaisante, comme vous le disiez, pour faire plaisir aux professeurs ou à l'institution en quelque sorte. Parce que par ailleurs, une question que vous avez, je trouve, vraiment bien fait de poser, mais qui, bon, pour le coup, la réponse inquiète, la question était, êtes-vous d'accord ou pas avec cette affirmation, les régimes démocratiques ont provoqué la mort de millions de personnes. Alors, il y en a quand même 37% qui répondent, on est d'accord.
Qui sont d'accord. Ouais.
Vous l'expliquez, hein, vous dites, c'est peut-être qu'ils ont à l'esprit les victimes de la Première Guerre mondiale, les bombardements d'Hiroshima, Nagasaki, etc., les crimes, la colonisation, etc., qu'ils ont tout mis ensemble. Mais est-ce que ça révèle pas une adhésion quand même peut-être un peu superficielle à la démocratie ou une forme de confusion finalement, qu'est-ce que c'est un régime démocratique totalitaire, sachant que par ailleurs dans certains pays les pays totalitaires sont exonérés des crimes sont considérés comme n'ayant pas porté atteinte à leur, je sais plus quelle était la question.
Est-ce
que votre pays a porté atteinte
On a eu deux questions. Est-ce que le régime nazi, on a posé des questions qui sont des évidences pour nous. Mais...
Mon pays a-t-il agi pour la liberté et la dignité humaine? Vous avez demandé à...
Donc l'Allemagne nazie, la Russie soviétique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, pour tester les démocraties qui ont résisté à l'effondrement pendant la Deuxième Guerre mondiale, la perception. Si vous voulez... Là, ça enregistre quelque chose que l'on sent par ailleurs, que l'on mesure par ailleurs, c'est-à-dire il y a un déclassement de la forme démocratique dans l'opinion, ça c'est très clair. Hein. C'est très certain, ça renvoie à beaucoup de sujets qui nous occupent aujourd'hui, qui nous intéressent, qui nous préoccupent tous. Il y a une dégradation de la forme démocratique qui n'est plus considérée comme une forme supérieure qu'il faut protéger à tout prix, même si elle n'est
comme pas... Comme une fatigue hein, qui contamine ces jeunes.
Même si elle n'est pas considérée comme inférieure aux régimes qui ont été qualifiés de régimes totalitaires. Hein. Ça reste, l'évaluation morale elle reste très clairement, la démocratie est un régime supérieur à ces régimes-là, moralement, politiquement. Mais elle subit de très fortes critiques. Et notamment sur cette idée que la démocratie a provoqué la mort de millions de personnes. Il y a les raisons qui ont été évoquées dans le texte, il y a d'autres raisons qui ont été évoquées pendant le débat qu'on a eu au Bernardin en présentant nos deux fondations, ses résultats le 21 janvier dernier, qui étaient notamment l'intervention militaire en Irak, ce genre de choses, le Vietnam. Ce sont des événements qui sont présents dans l'esprit des nouvelles générations.
Une dernière chose qui m'a paru intéressante justement à cette question, donc en 39-45, mon pays a-t-il agi pour la liberté et la dignité humaine? Alors 50% des sondés répondent oui, et les Français, je vous laisse deviner, 49%. Qu'on est vraiment...
C'est très... Et en même temps, si vous voulez, c'est cette éternelle question française.
Oui, tout à fait. C'est assez significatif comme réponse.
C'est étrange quand même. Hein. Cette façon de dire à moitié, on a agi pour la dignité, la liberté, on était du bon côté en gros, et pour l'autre moitié, on était du mauvais côté, on a agi contre. Une espèce de grandes questions françaises. Mais il y a des pays, par exemple, c'est un peu gênant, on ne veut pas stigmatiser parce que c'est des jeunesses qui parlent. Hein. Il y a des pays comme, par exemple, la jeunesse hongroise vous dit qu'elle a agi pour la liberté, la dignité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il y a des failles dans l'enseignement de l'histoire, quand même. C'est une question qui sert aussi à tester un peu cela. Et puis, je trouve très important de dire que les trois génocides sont spécifiés, isolés par les jeunesses que nous avons interrogées.
Et caractérisés de façon
correcte. Le génocide des Juifs, le génocide arménien et le génocide rwandais sont caractérisés.
En tant que tels, comme des génocides.
Et distingués d'autres massacres qui ne sont pas considérés par les jeunes comme des génocides.
Merci Dominique Régnier. Donc voilà, je rappelle le titre de cette vaste enquête « Mémoire à venir », une enquête sur la mémoire du XXe siècle. Qui servira sans doute aux historiens, il y a multitude de données qu'on pourrait exploiter en considérant à la fois l'âge, le milieu social, y compris le sexe. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.